Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action.
Allez, Bac FM, vous êtes à quelques secondes d'écouter la rediff d'action de ce matin. J'étais avec Marie, j'étais avec Letty, évidemment. On est revenu bien sur les sorties de cette semaine, sur le box-office, et puis sur l'actualité qui fait parler le cinéma français en ce moment, c'est la 76e édition du Festival de Cannes. Et on va revenir sur l'actualité du Festival de Cannes, évidemment, avec Manuel, qui nous recommandera un film aussi tout à l'heure, des avant-premières, et quatre nouveaux films au ciné Mazarin cette semaine. C'est ce qu'on va voir ensemble. Le dernier, Miley Cyrus, c'est ce qu'on écoute dans quelques minutes. Et puis je salue mes deux camarades, Marie et Laetitia. Salut.
Salut Théo.
Salut.
Ça va Marie?
Ça va et toi?
Ouais, ça va. Marie qui nous sort un film de son grenier en fin d'émission.
Tout à fait.
Comme tous les mercredis, et mercredi dernier, on n'a pas eu. On n'a pas eu le droit.
Vrai.
L'émission aurait duré beaucoup trop longtemps.
Il y avait le Festival de Cannes qui venait de s'ouvrir.
Voilà, exactement. Voilà,
c'est normal qu'on s'attarde dessus.
Manuel a monopolisé l'antenne, mais cette fois-ci, c'est bon avec un film de science-fiction d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
C'est ce qu'on va voir.
J'en ai pas fait beaucoup des films de science-fiction.
C'est vrai.
Le film du grenier.
C'est vrai.
Donc, ça change un petit peu.
Et tu présentes un film que je ne connais pas, donc j'ai hâte.
Tu ne le connais pas du tout.
Que tu me décrives ce film, pardon. Non, je le connais pas du tout.
Ok, bah.
J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Mais avant tout ça, on va faire un point sur le box-office. Et c'est Fast and Furious 10 qui prend la tête en cumulant 1 200 000 spectateurs. Alors sur 2023, c'est le troisième meilleur démarrage pour une première semaine derrière Astérix et Obélix et Super Mario Bros. Le film. Mais c'est devant Les Gardiens de la Galaxie 3 qui est deuxième au box-office et qui continue de progresser. 690 000 entrées en plus pour le troisième volet de la saga, un cumul à plus de 2 millions de spectateurs. C'est un très beau score pour
c'est
ce troisième
mal,
volet.
C'est une bonne entrée en matière.
Oui, c'est vrai, ça va. Puis il va continuer de monter encore, il lui reste quelques semaines. Jeanne Dubarry cumule, elle, 345 298 spectateurs précisément et prend la troisième place. Pour Maïwenn, c'est moins bien que Police, mais c'est meilleur que Mon Roi et le bal des actrices. Un film qui fait parler par le casting et surtout Johnny Depp qui était présent à Cannes. Il y joue un roi de France, Louis Croivet, mais sans le bâton. Louis XV qui tombe sous le charme de Jeanne Vaubernier, fille du peuple voulant s'élever socialement et qui met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Alors entre Louis XV et Jeanne, c'est le coup de foudre et avec la courtisane, le roi retrouve le goût de vivre à tel point qu'il ne peut plus se passer d'elle et décide d'en faire sa favorite officielle. Scandale, personne ne veut d'une fille des rues à la cour. Bande annonce.
Et voici Jeanne Vaubernier, dite l'ange.
Un ange tombé du ciel.
Je vous attendais, moi.
Je t'aime.
C'est pas ça l'amour.
Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie?
Pour aller où?
Jeanne Dubarry veut que je vous présente au roi.
La comtesse Jeanne Dubarry.
Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation.
Une invitation à quoi?
À la bagatelle.
Qui se prend-elle?
Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements.
Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage.
Cette jeune femme est mon entourage. Je vous aime.
Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour.
Le roi a d'autres maîtresses?
Vous êtes en train de découvrir le côté sombre du roi.
Madame. Jeanne Dubarry, c'est encore à l'affiche de votre ciné Mazarin. Et puis, Super Mario Bros. Le film prend la quatrième place avec 236 993 spectateurs pour un cumul qui approche les 6 900 000. Donc Mario Bros. Qui continue en fait toujours de progresser. C'est quoi? C'est sa quatrième, cinquième
ouais,
semaine?
Ouais, c'est la cinquième semaine, je crois. Ouais. C'est... Il reste dans le top hein, quand même. Enfin, ouais, ouais. Dans le top. Il est sur le podium. Mais c'est en vrai. Tout cas. C'est quand même pas mal, moi, je
trouve. Il va passer les 7, peut-être même les 8 millions, c'est assez...
Ça serait pas étonnant.
Ce serait pas étonnant. Les Trois Mousquetaires qui attirent encore du monde, 106 000 spectateurs et qui prennent la 5e place, ils dépassent les 3 millions. Et puis l'Exorciste du Vatican prend la 6e place, lui, un cumul à 264 970 spectateurs après 2 semaines d'exploitation. Et puis alors, Laetitia, semaine prochaine, grosse semaine pour toi, il y a 2 films d'horreur qui sortent au ciné.
Oui, alors, il y a pas le Croque-Mitaine ?
Si.
Ouais, celui-là, je l'attends avec impatience.
Ouais, il y a le Croque-Mitaine et il y a Renfield aussi.
Alors, celui-là, je l'attends avec un peu moins d'impatience,
ah
mais,
ouais
mais quand même une pointe de curiosité.
Mais alors, le Croque-Mitaine, je pensais pas que c'était celui-là qui allait te donner le plus
et
envie
bah si,
d'aller,
parce que,
d'aller le voir.
Je vais te dire pourquoi, c'est adapté d'un Stephen King.
D'accord, ok, d'accord.
Enfin, d'une, précisément d'une nouvelle de Stephen King.
D'accord. Et ça raconte quoi en gros? En vitesse?
Bah, une histoire de Croque-Mitaine.
D'accord.
Non, bon,
simple, efficace.
On détaillera la semaine prochaine.
Ouais, ouais,
si
semaine
tu veux.
Prochaine, bien sûr. Ok, d'accord.
Bon, on parlera un peu de la nouvelle et tout.
Mais du coup, tu m'intrigues parce que moi, j'aime beaucoup Stephen King et je savais pas que c'était une adaptation, tu vois.
Et ben voilà.
Donc, semaine prochaine, eh bien, c'est Action by Letty qui nous présentera donc tous ces films d'horreur qui sont.
Avec grand plaisir.
Qui sont prévus. 4 films sont arrivés au ciné Mazarin. 2 d'entre eux font partie de la programmation à Cannes et on en parle tout de suite dans les sorties ciné.
Pour le grand écran! Pas pour la petite lucarne. Et voilà, on a les droits.
Et 2 films français, des chevaliers et un Disney, c'est ce qui vous est proposé cette semaine. Disney qui est de retour sur les grands écrans avec Ariel, c'est la Benjamine des filles du roi Triton. Et puis c'est surtout une jeune sirène avec un tempérament d'aventurière. Rebelle dans l'âme, elle est toujours attirée par le monde extérieur. Et puis c'est au détour de ses escapades à la surface qu'elle va tomber sous le charme du prince Eric. Alors qu'il est interdit aux sirènes d'interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu'elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord avec Ursula, une sorcière des mers qui lui donne le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie et la couronne de son père en danger, bande-annonce.
Tous sur le pont ! Abandonnez le navire !
Désobéi. Tu t'es aventuré à la surface.
Un homme allait se noyer, je devais le sauver.
Cette obsession pour les humains doit cesser.
J'ai envie d'en savoir davantage sur eux.
Ariel, reviens !
Pauvre enfant, je peux t'aider. Tu ne pourras pas vivre dans ce monde à moins de devenir humaine.
Mais est-ce possible ?
Je ne vis que pour ça.
T'as quelque chose de changé, mais je saurais pas dire quoi. Je vois pas, c'est très bizarre.
Elle a des jambes! Tu le vois pas?
Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Prince de la chance, la vie commence.
Il n'est pas de notre monde.
Mais est-ce un ennemi pour autant ?
La Petite Sirène, le nouveau Disney, au cinéma et depuis aujourd'hui dans votre ciné Mazarin. Les filles, est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'adapter la Petite Sirène au ciné ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je t'avoue que les adaptations live de Disney, ouais, c'est vraiment pas ma tasse de thé.
Ouais, t'as jamais trouvé ça
ouf. Jamais vraiment trouvé ça ouf. Ouais. Et j'avoue que j'ai jamais même compris un peu l'intérêt.
D'accord.
Je suis pas. Voilà, l'idée de base.
Tu préfères l'animation au.
Bah,
live,
ouais,
en fait.
Je préfère l'animation. Live surtout action. Que les live actions, surtout, apportent. Je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue, mais n'apportent jamais grand chose. Ou si, ils essayent d'apporter des trucs.
Et
mais
peut-être que des fois, ça dénaturalise aussi.
C'est même pas
un
une question de
le...
dénaturaliser, c'est plus une question que je sais pas. Ils sont jamais d'une super bonne qualité. Ils sont pas. Ouais. Non, moi, je suis pas très fan des live actions Disney.
Alors, on rappelle que le live action, c'est en fait pour dire que c'est des vrais acteurs.
Oui, voilà,
en fait,
c'est des adaptations
hein, voilà,
avec des vrais acteurs, des dessins animés. Moi, je suis pas très fan.
Moi, j'ai vu Le Livre de la Jungle un peu par hasard et j'avais trouvé que c'était pas si mal que ça.
Ouais, c'est vrai qu'il y a Le Livre de la Jungle qui est sorti en live action.
J'avais étonnamment trouvé ça vachement fidèle au dessin animé. Enfin, dans le terme fidèle, j'entends que l'adaptation avec des humains et des animaux était quand même. J'avais trouvé ça relativement réussi.
Ok, bah écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que La Petite Sirène, ça va plaire déjà au jeune public, ça va marcher, ça c'est évident. On aura l'occasion d'en reparler, puis on pourra parler aussi des critiques presse comme spectateurs la semaine prochaine. On va rester dans l'univers fictif avec Seiya, un adolescent au caractère bien trempé, qui a l'habitude de participer à des combats pour gagner de quoi survivre dans la rue, tout en recherchant sa sœur qui a été enlevée. Marie, est-ce que tu sais de quoi je commence à parler ?
Les Chevaliers du Zodiaque.
Exactement. Parce que durant un combat, il puise involontairement dans des pouvoirs insoupçonnés. Et il se retrouve propulsé dans un monde où il rencontrera des chevaliers en armure, tirant leur puissance d'un entraînement magique ancestral, et Athéna, une déesse réincarnée, qui a besoin de sa protection. Si elle veut survivre, il devra affronter son destin et tout sacrifier pour prendre sa place qui lui revient parmi les chevaliers du Zodiaque. Un film en live action, qui était attendu par les fans depuis longtemps, mais un échec serait à prévoir apparemment.
Alors, moi, je t'avoue, j'ai pas trop regardé les Chevaliers du Zodiaque, mais ça serait pas étonnant dans le sens où les fans sont très souvent déçus des nouvelles relectures, des nouveaux.
Alors, de base, c'est un manga, les Chevaliers
du
Zodiaque.
Oui, à la base,
c'est
un manga et un animé. Et en fait, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui sont déçus souvent par les. Comment ça s'appelle ? Les reploads. C'est pas les reploads, c'est les. Les reboots.
Ah,
voilà.
les reboots,
des Chevaliers du Zodiaque. Donc je sais pas trop quoi en penser, je t'avoue que je suis
apparemment c'est un film un échec est à prévoir pour ce film, on l'espère pas, on ne lui souhaite pas, mais on verra ça la semaine prochaine s'il est dans le box office du moins.
On verra bien.
Peut-être que ce sera le fameux film zéro avec zéro entrée, peut-être.
Peut-être. Non, je pense pas, il y a quand même beaucoup de fans qui vont aller le voir parce qu'ils sont fans.
Ouais, bien sûr.
Je parie pas sur un gros succès, je t'avoue.
Allez, on revient dans le réel avec un film français qui a fait rire Cannes en séance de minuit vendredi soir. Omar, plus connu sous le nom d'Omar la Fraise, il est joué par Reda Kateb, c'est un bandit à l'ancienne. Contraint à la cavale en Algérie, il vit de petites magouilles, accompagné de son illustre acolyte Roger, qui est joué par le génial Benoît Magimel. Après avoir régné sur le milieu du banditisme français durant des décennies, ils doivent ensemble accepter leur nouvelle vie, alors qu'ils n'ont vécu jusqu'à présent que dans la débauche et la violence. Une critique presse très bonne pour ce premier long métrage d'Elias Belkédar, qui ose mêler la violence à l'humour, et ça marche comme le duo Reda Kateb et Benoît Magimel, qui se sont servis, eux, de leur complicité pour le duo. Écoutez Reda Kateb et Benoît Magimel qui en parlent justement.
La plus grande partie du chemin, c'était vraiment l'envie qu'on avait de jouer ensemble. Au-delà de l'histoire, au-delà de nos personnages, c'était l'envie de se plonger totalement dans cette rencontre. Et ça a été le cas, quoi. On a vécu ce voyage vraiment ensemble. Après, voilà, il y a un scénario, et puis après, il faut que le film décolle, il faut que le film existe. Et on s'y attelait du mieux qu'on a pu.
Le rapport qu'on a eu avec Reda, c'est on se connaissait, c'est dans les différences que ça marche. Et dans nos différences, on avait aussi une sensibilité, je pense, commune. Et c'est comme ça que les choses se sont installées. Après, voilà, il y a des situations qu'on a améliorées en travaillant. Et puis, il y a aussi des improvisations, parfois, qui sont liées justement au fait de connaître très bien.
Et Benoît Magimel, qui a participé à l'écriture aussi du scénario et la mise en scène parfois, il explique sa relation avec le réalisateur.
Oui, j'ai accroché quand j'ai rencontré Elias. J'ai vu son grand frère, puis j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très personnel dans cette histoire. C'est quelqu'un de pudique, mais il a fallu gratter pour savoir un peu plus pourquoi il allait raconter ce film. Et puis voilà, on a travaillé ensemble sur des scènes, parce que il y a des choses qui me rappelaient des choses que j'avais vécues. souvent on fait des clichés, voilà. On a toujours des clichés sur ces hommes-là. Et c'est bien de montrer aussi que c'est des enfants aussi, quoi. Voilà. Donc on s'est bien amusé, quoi.
Omar Lafraise, je vous invite à aller voir ce film au cinéma. Il est à l'affiche de votre ciné Mazarin, ça tombe bien. Un autre film français avec une actrice césarisée vous est proposé au ciné Mazarin, L'amour et les forêts avec Virginie Efira, et c'est présenté par notre spécialiste cinéma Manuel Housset, un thriller formidable sur l'emprise.
Oui, vraiment un film choc, Théo. Il s'agit de l'adaptation du roman d'Éric Reinhardt, L'amour et les forêts, qui nous raconte l'histoire de Blanche, une femme qui vient d'être quittée par son compagnon. Et dans une soirée, eh bien, Blanche rencontre Grégoire, une ancienne connaissance. Le jeune homme a tout de l'homme idéal et très vite, elle va tomber enceinte, elle va l'épouser, quitter sa Normandie, mais aussi sa sœur jumelle pour s'installer à Metz, où Grégoire vient d'être muté. Mais petit à petit, une atmosphère délétère va gagner Blanche. Elle va se rendre compte qu'elle est emmurée dans une relation éminemment toxique. L'amour et les forêts, c'est un film passionnant sur les mécanismes de l'emprise. La réalisatrice Valérie Donzelli évite vraiment tout pathos, rien n'est surligné. Elle signe un thriller vraiment angoissant, captivant, avec une mise en scène très réussie. La cinéaste joue avec les couleurs, avec le décor, et puis on est vraiment plongé tour à tour dans des paysages à la fois maritimes. Il y a vraiment une dimension hitchcockienne. Et puis il y a la forêt, tantôt qui protège, mais tantôt qui peut étouffer. Et Virginie Efira est vraiment sublime, intensité. À ses côtés, Melville Poupeau dans ce personnage éminemment inquiétant. Il est glaçant. On frissonne de savoir justement qu'elle est sous l'emprise de ce personnage qui est un véritable bourreau du quotidien.
Et le monde du cinéma, ayant les yeux tournés vers la croisette, petit point sur les autres films marquants à mi-parcours du festival. Et on débute, Manuel, avec Le règne animal, un film époustouflant et profond.
En effet, c'est un film complètement dément, c'est un choc total, même pour ceux qui ne sont pas forcément des fans de science-fiction. Le règne animal met en scène François et Émile, un père et son fils, qui vivent tous les deux, hein, depuis que Lana, leur femme et mère, a été hospitalisée. Et celle-ci est gravement malade, elle a une maladie qui se répand dans la population, elle est en proie à des mutations. Elle se transforme peu à peu en une créature animale totalement étrange et totalement inconnue. Il s'agit du deuxième long-métrage de Thomas Caillet, après Les Combattants, réalisé en 2014. Et ce long-métrage est présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard. Il est d'une intensité, d'une rugosité tout à fait étonnante, parfois effrayant. Il y a des côtés drôles, ça peut nous bouleverser. On sent qu'il y a beaucoup de sens aussi. Il y a une quête qui anime vraiment ce long-métrage. Et d'ailleurs, il interroge les consciences et notre rapport à la planète, aux animaux, à la maladie, mais aussi à ceux qui ne sont pas comme nous, vraiment à la diversité et à la différence. Donc voilà, un film français, et c'est rare plutôt dans le domaine de la science-fiction, donc une incursion réussie avec ce règne animal qui sera en salle, à noter, qui sortira donc le 4 octobre prochain.
On continue avec Monster, c'est une bouleversante affaire de famille.
Oui Théo, lauréat de la Palme d'Or en 2018 avec Une affaire de famille, le japonais Hirokazu Koreeda revient en compétition avec Monster. C'est l'histoire de Minato, 10 ans, et de sa mère avec laquelle il vit seul depuis la mort de son papa. Élève de CM2, Minato souffre à l'école et lorsque sa mère va en parler à ses professeurs, mais aussi à la directrice du collège, eh bien, elle va se heurter à un mur. L'un des profs du petit garçon se révèle même particulièrement inquiétant. Et au fil du récit, on va découvrir et peut-être relire l'intrigue à travers d'autres yeux. Ce sont ceux du professeur et puis ceux de Minato lui-même. Alors, malgré quelques répétitions, Monster est un film brillant, vraiment passionnant, tout en nuances, avec une fin donc qu'on ne révélera pas, particulièrement émouvante, et la date de sortie du film est encore inconnue pour l'heure.
Et puis on termine avec Killer of the Flower Moon, le Scorsese, le même grandiose Scorsese.
Oui Théo, on peut vraiment l'affirmer, Martin Scorsese ne nous a pas déçus avec son nouveau film, présenté hors compétition, hein, il faut le dire. C'est un film qui nous a laissé vraiment admiratif. C'est quelque chose d'assez formidable qui nous est raconté dans une histoire tragique. Il faut planter le décor, c'est celle des blancs manipulateurs et sanguinaires qui ont, au début du XXe siècle, assassiné, il n'y a pas d'autre mot, des femmes de la tribu, des Osage. Ce sont les seuls Indiens riches du pays, car sur leur terre, eh bien, le pétrole avait jailli. C'est Leonardo DiCaprio qui incarne Ernest, un jeune travailleur qui va œuvrer sous la coupe de son oncle puissant, William, interprété par Robert De Niro, pour que les filles, justement, d'une famille Osage, soient assassinées, alors qu'il a lui-même épousé Molly, une native dont il est éperdument amoureux. C'est une histoire vraiment ahurissante, c'est une histoire, bien sûr, inspirée de faits réels, qui démontre que les blancs vraiment ont participé au massacre des Indiens natifs, et Martin Scorsese transforme cette histoire, ce pan de l'histoire méconnue de l'Amérique, en un thriller qui dure 3h17 avec des images, des plans dont Scorsese bien sûr est coutumier, avec le rythme, avec ses acteurs, une direction vraiment d'acteurs époustouflante, des prestations de très très haut niveau. C'est le cinéma grand spectacle, le cinéma aussi d'auteur à part entière, avec un récit parfaitement maîtrisé et donc une œuvre vraiment grandiose.
Voilà pour le point festival. Merci Manuel, on va te retrouver vendredi pour une nouvelle recommandation cinématographique pour ce week-end. Marie va vous recommander un film aussi que vous allez peut-être revoir ou découvrir. Elle monte le chercher au grenier pendant Miley Cyrus qui arrive tout de suite, bougez pas, on revient. C'était Miley Cyrus, vous êtes sur Bac FM, je m'appelle Théo, je suis avec Letty et Marie, et comme tous les mercredis on parle cinéma, ça s'appelle Action. Juste avant de retourner quelques années en arrière, grâce à Marie qui sort un film de son grenier, on fait un point sur l'événement à venir dans votre ciné Mazarin avec une avant-première, Mon père et moi. C'est proposé lundi à 20h15, le duo Robert De Niro et Sébastien Maniscalco vous emmène dans une aventure père-fils hilarante où un choc des cultures se transforme en un concentré édifiant et hilarant de tout ce qu'il faut éviter de faire lors d'une rencontre familiale. Et puis c'est un concert aussi qui vous est proposé demain à 20h45, celui de Roger Waters. Allez, tout de suite, on retrouve Marie qui sort de son grenier et qui nous plonge dans une science-fiction.
Du coup, aujourd'hui, on va s'aventurer dans le futur, dans un futur qui serait l'inverse de fantasmé, hein, cauchemardesque,
oui.
si on peut dire un peu.
Il paraît.
Donc, c'est pas ce qu'on appelle une dystopie.
Si, exactement, c'est ça, c'est une dystopie avec une œuvre donc aussi dérangeante dans son univers que...
Laetitia, si t'es venue pour nous montrer que t'es plus intelligente que nous, ça sert à rien.
Bon bah je m'en vais parce que j'étais venue juste pour ça.
Non mais elle a raison, c'est une dystopie. Il faut rendre à César ce qui est à César, Letty, oui, tu as raison, c'est une dystopie. Et donc on va parler d'une dystopie aussi dérangeante dans son univers que inspirante dans son message. On parle d'un film de science-fiction des années 90 et qui aura marqué par son côté froid, parce qu'aujourd'hui on va parler de Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol. Alors, sorti en 1997, le film prend place dans un futur où les avancées génétiques sur l'être humain sont telles qu'on peut choisir le génotype des enfants à naître. Alors, le but étant de créer des enfants ayant le moins de défauts et le plus d'avantages possible pour la société. Une pratique de l'eugénisme à grande échelle qui est parfaitement normale pour cette société. Il n'y a aucun souci, tout le monde trouve ça totalement normal, même mieux qu'une naissance classique.
D'accord.
Et on retrouve donc d'un côté des personnes nées avec l'aide de la science et la sélection génétique qui sont considérées comme des êtres quasiment parfaits. Et de l'autre côté, les personnes nées de manière naturelle, appelés les invalidés, et qui sont ramenés en bas de l'échelle sociale et n'ont pas accès aux mêmes choses que les autres. Par exemple, certaines écoles n'acceptent pas les enfants naturels, car d'après eux, ce sont des enfants à haut risque.
Alors du coup, les enfants parfaits, c'est quoi? Ils jouent au foot, ils deviennent footballeurs professionnels, ils gagnent les Coupes
du
Monde?
Non, c'est pas exactement ça. C'est plus se dire que, par exemple, on va leur donner des gènes qui les empêcheront de contracter des maladies, ils vont être plus forts physiquement, plus intelligents.
D'accord.
Voilà, il y a plein de choses, en fait.
Et ils gagnent pas la Coupe du Monde?
Si, du coup, il gagne la Coupe du Monde, je pense.
Ah, bien.
Mais je pense que tout le monde, à ce moment-là, gagne la Coupe du Monde, puisque tout le monde est
amélioré. Oui, il n'y a que des gagnants, quoi.
Oui, voilà. Donc, dans cet univers, on va rencontrer Vincent, un jeune homme né naturellement et qui est venu au monde avec une malformation cardiaque. Donc, vraiment en tout en bas de l'échelle. Hein.
D'accord.
Et donc, toute sa vie, il a été mis de côté et oublié, comparé à son petit frère qui, lui, est un enfant génétiquement parfait. Mais pour Vincent, ce n'est pas grave, car il nourrit en secret un rêve, celui de devenir astronaute et de visiter l'espace. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution, intégrer l'agence spatiale Gattaca.
Qui refuse?
Alors, non, justement, c'est le seul moyen de se rendre dans l'espace, mais à cause de sa génétique et de ses problèmes de santé, bah oui, le seul poste qu'il arrive à décrocher à Gattaca, c'est celui de balayeur.
D'accord.
On est très loin de astronaute, on est très loin du programme spatial.
Ouais.
Mais il existe une solution à son problème, une solution illégale, mais qu'il est prêt à tenter si cela peut lui permettre de réaliser son rêve, c'est se faire passer pour un être humain génétiquement parfait. Et donc, pour ce faire, il va demander de l'aide à un certain Jérôme, un valide déchu, entre guillemets, qui va lui permettre d'utiliser son nom et son ADN pour intégrer le programme spatial de Gattaca.
Falsification d'identité,
exactement. Et donc, se voulant comme une espèce de dystopie génétique, et bah Bienvenue à Gattaca, ça a un petit effet choc à sa sortie à cause de la froideur de son univers. Il y a beaucoup de détails du film qui peuvent facilement faire frissonner ou faire questionner. Et rien que le concept de base de modifier génétiquement des enfants avant leur naissance, et bah ça donne au film un petit côté, un peu à la 1984 de George Orwell, le livre, je parle. Parce qu'en fait, ça dérange, ça met mal à l'aise. Le spectateur, il sait qu'il y a un problème.
Un côté glauque à l'histoire,
il se demande si c'est vraiment une bonne chose. En fait, le spectateur, il se dit, il y a un souci avec ça. Il y a un souci avec cette norme.
Cette idée,
Voilà. Donc, c'est un film qui se prive pas de donner son avis. Hein. Clairement, le réalisateur, il démontre un peu l'absurdité entre guillemets de ce système. Et pour ce faire, il va utiliser deux personnages, donc Vincent, pour commencer, qui est condamné dès sa naissance à avoir moins de valeur entre guillemets, moins de droits. Mais aussi, alors, grâce à son alter ego, Jérôme, qui, lui, sa souffrance, elle est un petit peu plus subtile.
D'accord.
Mais dans cet univers, Jérôme, il avait tout pour être heureux. Il avait un ADN parfait, une carrière sportive florissante et la médiatisation qui en découle, pardon. Pourtant, il n'était pas heureux car malgré ses gènes valides parfaits, c'était un éternel second dans sa catégorie. Donc il était nageur, il faisait de la natation et il finissait toujours deuxième. Alors, et c'est étonnant, en fait, il a fini par se sentir illégitime et pas assez parfait aux yeux de la société, et donc il va tenter de mettre fin à ses jours. Tentative de suicide qui échouera, mais qui le laissera paraplégique et dans l'incapacité de reprendre une vie normale. Et c'est ainsi qu'il sera mis en contact avec Vincent pour lui fournir des échantillons ADN, afin que ce dernier revête son identité.
D'accord.
Et en échange, Jérôme, il demande à Vincent de l'aider à retrouver sa qualité de vie perdue. Donc d'être moins en dehors de la société, parce que forcément, paraplégique dans un monde où tout le monde est censé être parfait.
Ouais. Oui, forcément, ça fait tâche.
Voilà. Donc un marché gagnant-gagnant, mais sur fond de tragédie qui aurait pu être évitée si le poids de la société ne pesait pas autant sur ses citoyens. Donc clairement, le film, il te dit, cette façon de voir la société, c'est pas une bonne chose. Alors, bien sûr, l'histoire, ça s'arrête pas là. Hein. Il y a beaucoup d'autres... Ça, c'est le début de l'intrigue, on va dire.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est ensuite qu'est-ce qui se passe
quand il est...
Ouais,
c'est le décor. Ça, c'est le décor.
Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe une fois qu'il a pris l'apparence de Jérôme. Mais je vais vous laisser découvrir ça, parce que il se passe quand même des choses très intéressantes. Peut-être que vous serez conquis comme le public qui aura pu voir le film sur grand écran à sa sortie, et la production aura tout de même rapporté plus de 12,5 millions de dollars au box-office mondial.
Oh, c'est pas mal.
C'est pas mal, un accueil très chaleureux de la part des cinéphiles, mais aussi des scientifiques, puisque la NASA affirmera en 2011 que Bienvenue à Gattaca était le film de science-fiction le plus plausible jamais enregistré.
D'accord, ouais, il y avait... Ouais, ok, ouais. Ouais, c'était livré, ouais, ok, je comprends.
Donc c'est assez... au final, pas réaliste, mais... Peut-être... réaliste dans une sorte d'avant-gardisme, je sais pas,
ouais,
mais
ouais.
Voilà, ils disent ouais, c'est très faisable, c'est très possible, et du coup ça fait un petit peu peur peut-être.
Eh bien merci Marie.
Et de rien, si vous désirez découvrir ou redécouvrir cette petite pépite, foncez, vous regretterez pas.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.